va dire à Dieu, prends tout. Est-ce qu'il y a un cœur qui va dire ça?
Prends tout, c'est...
Laisse ton cœur parler, laisse ton cœur parler, laisse ton cœur parler. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est, pour ce qu'il sera. Même ce que tu ne vois pas encore. Dis Seigneur, prends tout et que ta volonté soit faite. Parce que même si nous serons persécutés, tu ne nous abandonnes jamais. Éternel Dieu, prends toute la gloire. Prends toute la gloire, Seigneur, dans les bons moments. Et mon vieux jour, prends toute la gloire, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer davantage et à nous accrocher sur toi parce que tu es la vie et la vérité. Oui, Seigneur, mais si parce que tu vas marcher avec nous. Tu n'as pas dit que nous n'allons pas avoir des problèmes. Tu n'as pas dit que nous n'allons pas affronter des montagnes. Mais tu as dit que tu seras avec nous et que nous vaincrons. Tsunami et toute ta chine. Oui, Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons, parce que tu les mérites. Au nom de Jésus, et l'Église est dit Amen.
Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ces moments. Tu nous as ordonné que lorsque nous allons nous rassembler à ton nom, nous allons nous souvenir de l'acte salvateur que tu as posé sur la croix à Golgotha. Merci pour la participation de chacun de nous. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Ta parole, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Fais assez que cette parole qui sera proclamée ici soit réellement la lumière pour les sentiers de chacun de nous. Bénis-nous et parle en nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui, par sa grâce, nous clôturons cette semaine baptême. Depuis le dimanche passé, jusqu'aujourd'hui, nous sommes ici autour de la parole de Dieu. Et nous le bénissons, nous le glorifions, parce qu'il a été au rendez-vous. Il a été notre sécurité, il a été notre protection. Que la gloire lui revienne à jamais. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7 jusqu'à 10. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 4, le verset 7 jusqu'à 10. La parole de Dieu dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribué à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Avant que je ne parle de ce texte et que je ne continue, nous allons chanter deux couplets. Du cantique numéro 100, c'est le cantique que nous avons chanté ici, au début de ce culte. « La voix du Seigneur m'appelle ». Nous chantons le deuxième couplet et le troisième. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. chantez le troisième cantique en méditant aux paroles que vous prononcez. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je Bien-aimés dans le Seigneur, au courant de la semaine, nous avons développé le thème « Persécuté mais non abandonné ». Nous sommes pressés de toutes les manières, mais nous ne perdons pas espoir. Nous sommes abattus, mais non délaissés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Le Seigneur à qui nous avons cru, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et nous devons toujours marcher avec lui, partout où nous sommes, partout où nous travaillons, partout où nous passons tout notre temps. N'oublions pas, nous devons toujours mettre dans notre esprit que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le dimanche passé, nous avons fait une petite introduction. Et nous avons dit que lorsque nous acceptons de naître ici sur terre, ce sont les pleurs qui nous accueillent. Quand nous naissons, nous commençons d'abord par pleurer. Mais aussi, celle qui nous met au monde, elle ne les fait pas entrer de rire, elle les fait entrer de pleurer aussi. Elle crie, elle injurie même. Tout simplement parce que nous les hommes ici chez nous, on ne nous permet pas d'aller voir comment nos femmes mettent au monde. Mais sinon, ces femmes qui nous amènent des enfants de l'hôpital, elles nous amènent les enfants après nous avoir injuriés là-bas. Parce que c'est à cause de nous qu'elles ont souffert là. Tout ceci montre que lorsque nous venons au monde, nous sommes sujets à la souffrance. Nous sommes sujets à la souffrance et c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre salvatrice qu'il a opérée sur la croix, qui fait de nous des personnes. C'est parce que le Seigneur a accepté de mourir à cause de nos péchés, que nous pouvons encore sortir de la centre où nous sommes dans le désespoir, pour une chaise de gloire où nous sommes dans l'espoir avec Christ. Nous avons parlé de la vie de ceux-là qui ont marché avec Christ. Ceux-là dans l'Ancien Testament qui ont marché avec Dieu d'une manière fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes persécutés aujourd'hui à cause de notre foi, nous ne sommes pas les premiers. Ceux qui ont marché avec le Seigneur, à partir même d'Abel, le fils d'Adam, tout simplement parce que le Seigneur a agréé son offrande. Le Seigneur a dit, cette offrande est juste. Cela lui a valu la mort. Nous avons vu les prophètes être tués parce qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Nous avons parlé de Daniel et les autres qui ont voulu rester fidèles à la parole de Dieu et cette façon d'être. Parce qu'ils ont choisi croire à Dieu, ils ont choisi rester fidèles et justes, intègres devant le Seigneur, ils ont payé de leur vie. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il est parti avec eux, il ne les a pas abandonnés. C'est pourquoi même Paul, il peut vous dire que je meurs en Christ. Que je vis pour Christ. La mort et la vie que moi je vais subir, si Christ est en moi, ce n'est rien devant Dieu. Parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous sommes des chrétiens et nous vivons au monde. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de rentrer au ciel, il a fait une prière en faveur de ses disciples. Il a dit à Dieu, à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal du monde. » Ce n'était pas difficile pour Dieu de prendre directement ses disciples pour qu'ils ne soient plus souillés par ce monde. Le Seigneur nous laisse au monde parce qu'il sait que nous avons une mission dans ce monde. La mission d'éclairer ce ténèbre de ce monde. Ce monde tel qu'il est, c'est un monde qui voit les valeurs en l'affaire. Ça veut dire, ce que nous considérons comme anti-valeur, ce monde veut nous le montrer comme valeur. Et ce depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Par exemple, l'homosexualité. Depuis la création de l'homme, depuis Sodome et Gomorrhe, cette question a été traitée. Si vous lisez Lévitique, le chapitre 10, vous allez voir que la parole de Dieu dit « Un homme n'ira pas avec un autre homme et ils seront maudits et lapidés. » Mais aujourd'hui, essayez de refuser l'homosexualité. On va vous dire que vous êtes, je ne sais pas quel mot on peut utiliser. Nous avons vu, je l'ai dit au courant de la semaine, en Ouganda, le président de l'Ouganda a pris le risque de dire toute personne qui sera attrapée dans l'homosexualité sera punie. Le président des États-Unis, celui qui était le premier à réagir, il a dit ça, c'est la loi de la honte. Vous voyez comment l'antivaleur devient la valeur des gens de ce monde. Ordonnez même à ses services de voir comment on va couper les aides qu'on a en Ouganda à cause de ça. C'est ce type de ce monde dans lequel nous vivons. Le monde qui voit des antivaleurs et il les rend valeurs. Le type de ce monde dans lequel nous vivons, c'est le monde où même vous, chrétiens, vous avez la honte de dire que vous êtes chrétien. Mais au moins, vous avez le courage de dire que vous pouvez un peu boire de l'alcool. Vous avez le courage de dire que vous pouvez draguer 10 femmes. Ça, et le monde va dire « Ukomwa Naomi ». Si tu dis que tu es chrétien, le monde ne te dira pas « Ukomwa Naomi ». Mais quand tu es capable de démontrer de quoi tu es capable dans ce monde ici, on va t'applaudir. C'est dans ce monde que nous sommes. Et nous avons dit, pour que notre foi reste ferme, la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas aimer le monde. Parce que dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Dans le monde, il y a la convoitise des yeux. Dans le monde, il y a l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, c'est lorsque vous-même, le monde vous montre quelque chose que vous saviez que ce n'était pas bon. Mais le monde vous montre que c'est bon. Et vous commencez aussi à voir que réellement c'est bon. C'est ce qui est arrivé à Ève dans le jardin d'Éden. Ève dans le jardin d'Éden, il ne faut pas penser qu'elle ne passait pas tout près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève passaient par cet arbre-là et ils voyaient le fruit qui y était. Mais il a fallu que le monde leur montre que vous ne voyez pas que c'est bon et ça peut vous aider dans votre santé. Et la Bible dit, Ève vit que le fruit était bon à manger. Alors qu'avant, elle passait par là, elle n'avait pas encore vu que c'était bon à manger. Le monde vous propose des choses que vous avez vues avant que ce n'était pas bon. Mais le monde est capable de vous dire c'est bon. La convoitise des yeux. Même Ève a dit, la Bible dit, le fruit était beau à voir. C'est Ève qui voit, c'était beau à voir. Tous ces temps-là, elle n'avait jamais vu que c'était beau à voir. Mais aussi, elle a constaté que ce fruit peut l'ajouter la connaissance. C'est l'orgueil de la vie. Quelles sont les choses que vous ne pratiquiez pas avant? Et vous saviez que c'était de péché. Et maintenant, vous commencez à le pratiquer parce que le monde vous les a proposés. Et vous avez déjà vu que c'est bon. Vous avez déjà vu que c'est bon. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Et face à la souffrance de nous qui sommes chrétiens, nous avons parlé, vous voyez par exemple, lorsque nous sommes persécutés dans ce monde, nous avons la souffrance. Nous qui sommes des chrétiens, nous avons parlé de trois types de chrétiens face à la souffrance. Nous avons parlé des chrétiens qui rétrogradent. Vous pouvez le voir très joyeux, très dynamique à l'église, aux activités de l'église, mais lorsque ça va tourner au vinaigre dans sa vie, il est le premier à fuir l'église. Il rétrograde parce que la souffrance devient atroce. Nous avons parlé des chrétiens qui renoncent. Les chrétiens qui renoncent, ce sont ces chrétiens qui se cachent sous la volonté de Dieu. Parce que souvent, quand les souffrances nous arrivent, nous disons c'est la volonté de Dieu. Alors même si c'est la volonté de Dieu, est-ce qu'il faut que nous puissions nous asseoir dans le défaitisme et ne plus travailler pour adoucir cette souffrance? Il y a ce chrétien aussi qui reste stagnant. Il reste sur place. Qui suis-je pour ne pas suivre la volonté de Dieu? Et il ne faut pas d'effort pour aller au-delà. Nous avons parlé des chrétiens qui s'élèvent. Qui s'élèvent. Ils passent par la souffrance. Donc, toi qui es en train de souffrir, de cette même manière, il s'approche de Dieu. Quand ça fait mal, il multiplie aussi sa manière de prier. Et celui-ci, quand il prie, il sort de la prière et dit, « Seigneur, je dois faire ceci ou cela. Accorde-moi et accompagne-moi dans ça. » Nous avons parlé de David. Le roi David qui est allé en guerre. En allant en guerre, il est arrivé, quand il retourne dans leur cité, ils se battent contre les Philistins et les Amalécites viennent de l'autre côté pour s'emparer de leur ville. Ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs enfants et maintenant David avec ses militaires arrive pendant que le village est vide. David a failli aussi être lapidé par ses propres militaires parce qu'ils ont dit « c'est à cause de toi que nous n'avons pas su sécuriser la ville ». Mais David, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit c'est la volonté du Seigneur. Il a dit, je vais dans la maison de l'Éternel. Il a prié. Et après la prière, il n'a pas croisé les bras. Il a mobilisé ses hommes. Ils sont partis. Ils ont poursuivi les Amalécites. Et la Bible dit, ils ont gagné. Devant la persécution, devant une situation qui est au-delà de votre attendement. Allez devant le Seigneur afin qu'il vous aide pour que vous-même, vous puissiez aussi utiliser les talents et les dons qu'il vous a donnés pour adoucir la souffrance dans votre vie. Au-delà de la souffrance, au-delà des situations qui sont au-delà de notre attendement, nous devons savoir que le Seigneur nous y précède. La Bible dit que le Seigneur, il est hier, aujourd'hui et demain. Et donc rien ne peut arriver si le Seigneur ne le sait. Il sait ce que tu traverses aujourd'hui. Et sache que le Seigneur, avant que toi tu n'y arrives, le Seigneur était déjà là. Et d'ailleurs, si tu continues à vivre malgré ça, c'est parce que le Seigneur te donne cette force. Il est là. Et là, on a parlé des enfants d'Israël qui étaient à Babylone. À l'occurrence, Meshach, Abednego et les autres. Avant qu'ils ne soient jetés dans la fournaise, le Seigneur était déjà là. Il était déjà là. Et donc, même si on va nous traîner par terre, on va verser notre sang, mais le Seigneur nous dévance toujours. Maintenant, tu es encore à vie. Tu n'es pas encore mort. Et tu as déjà crié au Seigneur Jésus-Christ. Les amis viennent de s'engager ici, il n'y a pas longtemps. Vous vous êtes déjà engagés, ça fait des années peut-être. Jusqu'où irez-vous avec Dieu dans cette souffrance? Vous devez vous engager, parce que à la fin des temps, en fin des comptes, vous allez recevoir la couronne de vie. La couronne n'est donnée qu'à celui qui a été vainqueur dans un combat. Si nous voulons avoir la vie éternelle, engageons-nous avec le Seigneur. Et moi, je suis très content parce que quand nous combattons contre les gens de ce monde, contre le diable, le Seigneur nous dit, je serai avec vous. Je vais vous accompagner. Je ne vous abandonnerai point. Et donc, notre guerre, elle n'est même pas physique, mais elle est spirituelle. Et quand le Seigneur habite en nous, il nous donne la force. Il nous capacite. Pour finir, notre thème de la semaine, nous venons de lire le livre, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et c'est ce verset qui porte notre thème de la semaine, persécuté mais non abandonné. Paul, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, il a compris parce que quand il a cru en Christ, Christ lui a donné le salut. Christ a mis en lui le ministère. Christ a mis en lui les trésors cachés. Mais il a compris que même si le Christ nous a donné le trésor caché, mais il nous l'a donné dans des vases fragiles. Il nous a donné ce trésor dans des corps fragiles. Les vases d'argile. L'argile, c'est comme l'œuf. Quand tu portes l'argile, tu portes l'œuf, tu fais très attention. Parce que tu sais que moindre blague, moindre erreur, tout sera réduit à néant. Ça se décompose très facilement. Les gens que nous enterrons, ils ne passent pas 3 jours, 4 jours si le corps n'est pas encore décomposé. Même ceux qui sont encore vivants, vous pensez que là vous êtes vivant et vous avez la santé parce qu'il n'y a pas de scanner ici. Vous n'avez jamais été au scanner. Il faut voir les médecins qui nous regardent souvent et ils se taisent, ils se réservent de nous dire autre chose qu'ils ont constaté, de peur que nous ne puissions mourir des tensions. Et ils nous disent, bon, vous voyez, vous savez, vous allez guérir, le Seigneur est là, vous allez guérir. Mais il sait déjà que, basse. Mais c'est dans ce corps-là que le Seigneur a prévu. Ce corps qui souffre, c'est dans ce corps-là que le Seigneur a prévu mettre son trésor caché. Tu as reçu Christ, tu as Christ en toi lorsque tu marches. Lorsque tu dors, lorsque tu travailles, sache que le Seigneur, qui est notre trésor précieux, est en toi là. Mais ce corps-là, parce que c'est un corps qui se décompose facilement, ce corps-là aussi peut te demander d'autres choses qui iront à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tu te sens persécuté parce que tu ne seras pas autorisé de le faire. Toi-même, à ton intérieur, tu vas dire, en tout cas, ça, je ne fais pas. Ça veut dire que la souffrance du corps ne devrait pas nous amener à lâcher ce trésor de la vie qui est en nous. La souffrance du corps ne devrait pas. Parce que ce corps a été tiré de la poussière et rentrera dans la poussière.
Ton esprit lié en Christ, lorsque tu mourras, va rentrer chez le Christ. Alors, ce corps ici, qui a une durée déterminée, ne devrait pas t'amener à gâcher l'éternité que tu dois avoir avec Christ. Parce que ce trésor a été mis en nous par ce Christ qui est mort sur la croix. C'est pourquoi Paul, il le dit clairement, nous devons résister à toutes les attaques. Nous ne devons pas nous mettre en avant lorsque les attaques arrivent, parce que notre corps, c'est un corps sujet à la souffrance. Pour que nous sortions vainqueurs, nous devons mettre Jésus en avant. Celui qui doit d'abord combattre avec nous pour que nous sortions victorieux. Jésus est prêt à se mettre devant toi. Mais peut-être c'est toi, à cause de la peur, tu peux ne pas engager la lutte contre ce monde. Et le Seigneur, un jour, il te dira, je ne t'ai pas connu, parce que tu ne t'es pas engagé. Tu ne l'as pas regardé, tu as regardé les souffrances de ce monde. Tu as regardé les persécutions de ce monde. Tu as regardé le M23 qui vient. Et tu n'as plus le temps de dire, Seigneur, nous savons que c'est toi. Nous devons savoir, lorsque nous sommes ici, lorsque nous marchons avec le Seigneur, que toute chose sur terre se soumet en Jésus-Christ. Notre joie, notre souffrance, tout ce que nous sommes se soumet en Jésus-Christ. Rien de ce que nous avons qui ne soit soumis en Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir de l'orgueil, parce que le monde passe avec sa convoitise. Nous sommes chaque jour aux prises avec les malheurs, les souffrances et même la joie. Oui, même si nous sommes au monde, ce n'est pas à dire que nous n'avons pas la joie. Il y a des moments de la joie. Ce ne sont pas seulement les souffrances qui peuvent nous amener loin de la volonté de Dieu. La joie aussi peut nous amener loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi les épreuves, que ce soit la joie, que ce soit la souffrance, toutes ces épreuves ne pouvons jamais nous abattre si nous avons Christ en nous. Comme Paul l'a dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec confiance que malgré la pression de toute manière, nous ne sommes pas réduits à l'extrémité parce que le Seigneur est là. Malgré la détresse, le moment que tu traverses, nous ne devons pas désespérer parce que le Seigneur est là. Malgré le fait que nous soyons abattus, nous devons savoir que nous ne sommes pas perdus parce que le Seigneur est là. Il nous ramasse toujours. Il nous remet à la droiture. Malgré la persécution qui peut venir, nous n'abandonnons pas notre engagement, car celui qui nous y appelle ne nous abandonne pas aussi. Il faut mettre cela dans votre tête, dans votre cœur. Avoir la confiance que le Seigneur ne nous abandonne pas. Le problème que nous avons, nous les humains, c'est que nous ne voyons pas le Seigneur par nos yeux. Il est invisible et nous voulons toujours chercher des solutions par ce qui est visible. À force de chercher la solution par ce qui est visible, nous allons voir le monde qui va nous accueillir à bras ouverts. Nous sommes où nous vivons la pression du temps. Notre temps nous presse et nous voulons nous conformer au temps aujourd'hui. Dans notre milieu, qu'est-ce qui se passe? Comment faisons-nous face aux choses qui se passent dans notre milieu pour que nous ne puissions pas désarmer? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible mentionne que l'un des signes de la fin des temps, il y aura la tribulation. Mais elle dit, ce ne sera pas encore la fin. Si nous pouvons vivre la tribulation aujourd'hui, des guerres, des massacres, tueries sans pitié, des crises économiques, c'est la tribulation qui arrive. Et pendant ce moment, la Bible dit qu'il y a l'apparition des faux prophètes. Ce faux prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Les faux prophètes vont faire des miracles. Ils vont faire des prodiges. Ils vont faire des guérisons. Et ils vont sembler avoir un ministère efficace. Un ministère efficace. Alors, parce que nous vivons des moments de difficulté, des moments de souffrance, des moments de persécution. Nous sommes persécutés parce que nous ne vivons pas tel que nous avons voulu vivre. Quand les prophètes là vont nous arriver, nous allons y fuir. Nous allons y fuir pour chercher la solution à nos problèmes. Pour chercher la solution à nos problèmes. Et là, ça montre que nous avons la confiance à l'homme plutôt qu'à Dieu. En même temps que ces prophètes font des miracles au nom de Dieu, au même moment, ils nient et rejettent sa vérité par leur pratique et par leur comportement. Alors l'Écriture, la parole de Dieu que nous lisons souvent, encourage les chrétiens à toujours éprouver l'esprit qui anime tous les enseignants, tous les dirigeants, tous les prédicateurs. Ce n'est pas parce que je prêche et que tu es béni que je suis de Dieu. Je peux prêcher et tu es béni, mais je ne suis pas de Dieu. Peut-être que la force que j'ai utilisée, c'est une force maléfique. Le diable sait déjà que nous avons peur de lui. Il le sait. C'est pourquoi il ne peut plus venir sous forme de diable tel que nous pouvons le connaître. Il ne peut pas venir avec des cornes et il va nous faire peur. Non, il va venir à travers la Bible. Il va venir au nom de Jésus. Et nous qui sommes persécutés, nous allons y fuir pour que nous trouvions solution à nos problèmes. Et Dieu, parce qu'il peut nous éprouver, il peut aussi permettre la tromperie. Il peut permettre que ça se réalise, que les miracles se réalisent, afin qu'il sache réellement qui est ce chrétien qui reste fidèle à moi. Oui, il peut le faire. En Matthieu 24, le verset 24 dit, la période dans laquelle nous vivons, cette période de séduction, c'est une période difficile. Jésus lui-même, dans sa bouche, il affirme que durant les derniers jours, la tromperie religieuse sera monnaie courante. Même les élus, les chrétiens consacrés, auront du mal à faire la différence entre la vérité et l'erreur. Ça, c'est Jésus qui le dit. Pour tout simplement dire que ce n'est pas facile avoir le discernement de savoir celui-ci, c'est un bon prophète, celui-là a été envoyé de Dieu, celui-là non. Il faut que le Seigneur ait une place prépondérante dans votre vie. Et c'est très important. La situation sécuritaire en RDC, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la vie misérable que nous menons, je vous assure, c'est un champ propice. C'est un champ qui a de l'engrais. Un champ qui a de l'engrais pour les faux prophètes, pour les faux serviteurs de Dieu, parce que ils vont nous trouver dans la souffrance, ils vont nous trouver dans la persécution, ils vont nous trouver dans la famine, ils vont nous trouver avec des questions qui ne trouvent pas de solution. Et ils vont venir devant nous. Et nous aussi, nous allons y aller. Nous allons y aller. Nous allons chercher les solutions à nos problèmes devant les hommes au lieu de les faire devant Dieu. Et quand nous voulons chercher nos solutions devant les hommes parce qu'ils ont été brillants et nous ne les cherchons pas devant Dieu, nous allons en avoir à notre compte. Au lieu que nos cœurs soient guéris, nous sommes encore blessés. Nous sommes encore blessés au lieu que nos corps soient guéris. Et nous avons même la honte. Peut-être que tu es ici, tu as déjà été quelque part où tu as voulu chercher la solution à ton problème. Et on t'a menti. Tu regrettes ce que tu as déjà perdu. Tu regrettes ce que tu as déjà fait parce que tu voulais chercher la solution à ton problème. Mais tu ne l'as pas trouvé et tu es revenu, mais couvert de honte. Et tu ne peux même pas nous le dire parce que tu sais que nous allons nous étonner de toi. Et tu portes ça comme fardeau dans ton cœur. Mais sache que le Seigneur, tu peux nous le cacher, nous les hommes, mais le Seigneur le sait. Et il est prêt à te décharger de ce fardeau. Notre Seigneur est bon parce qu'il nous décharge. Il y a des faux prophètes qui nous arrivent dans nos milieux. Il y a des gens dans la vie qui savent voir comment les choses se font durant un moment donné. Ils savent que, en ce moment, si quelqu'un dit aux gens qu'il y a la guérison ici, les gens vont venir. Ils savent calculer ça. Et nous allons y aller. Peut-être que quelqu'un, dans sa vocation, c'est le catch. Le catch. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les jeux de catch. Et il dit, voilà ce qu'il va encore payer. Venez ici, il y a le ministère de la guérison. Vous allez venir, tu es malade, on va te catcher. Parce que sa vocation, c'est le catch. C'est pourquoi vous pouvez voir même les gens dans des chambres de prière. On les moleste. Je ne sais pas comment. Vous dites Kuchunda. Je ne sais pas si c'est aussi Eswaili qui est venu d'où. Ces gens devraient être des catcheurs. Ils devraient être, je ne sais pas qui, mais ils voient l'opportunité. Et ils ne vont pas faire ça gratuitement. Même le peu que vous avez, ils vont prendre. Et après, vous allez regretter. Quelqu'un, c'est un féticheur. Mais aujourd'hui, il sait que l'Église a déjà suffisamment expliqué les gens que ce n'est pas bon d'aller chez les féticheurs, aller à l'hôpital. Il analyse cela. La société, il dit, cette société peut être favorable à quoi? Venez ici, il y a la guérison. Venez ici, il y a des miracles. Au nom de Jésus, il va utiliser ce fétiche. Et vous allez vous perdre. Vous suivez la radio. Vous avez des téléphones sur lesquels vous avez WhatsApp et autres réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps qu'au Kenya, on a enterré 100 de personnes qui ont suivi la parole des prophètes. Venez, nous allons devant Dieu. Nous allons jeûner. Et les gens, ils partent aveuglément. Ils ne mangent pas. Et ils vont commencer à mourir. Il les enterre lui-même dans la forêt. Ça, ce sont des choses qui sont, il n'y a pas longtemps. Ils sont là. Ici à Goma, nous avons des pasteurs, entre guillemets, qui peuvent être des responsables de l'Église, mais tu es leur membre, si tu meurs, leur foi leur dit, tu ne dois pas arriver au deuil. Et tu ne dois pas aller enterrer. Tu es pasteur, ton fidèle meurt, et tu dis, ma foi me dit, je me limite. Ce sont des pasteurs des vivants seulement. Quand vous venez de mourir, c'est fini pour vous. Ce sont des signes normalement qui devraient chaque fois nous montrer que ici, c'est suspect. Je dis tout cela parce que je sais que ce sont nos souffrances, des questions qui n'ont pas de réponse, qui nous amènent à aller là-bas. Nous sommes malmenés parce que nous voulons trouver la solution à notre problème. Je sais que même tu peux être ici et ta conscience te dérange toujours parce qu'un jour, on t'a déjà dit que ta mère ou ta grand-mère avait marché nue devant toi pour te maudire. Et tu trembles. Moindre échec dans la vie, tu réfères directement à cet événement. Je vous pose la question. Quand Jésus était sur la croix en train de nous bénir, il était nu ou il était habillé? Ça veut dire que si quelqu'un enlève même les habits devant toi pour te maudire, dis-lui que Jésus aussi est tenu sur la croix en train de me bénir. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi nous nous catastrophons? Les hommes de ce monde ne sont jamais morts à cause de nos péchés. Il n'y a que Christ seul qui est mort à cause de nos péchés. C'est pourquoi, quand nous avons des pasteurs devant nous, nous avons des évangélistes devant nous, nous avons des prédicateurs devant nous, il faut que notre foi aille au-delà de ces évangélistes. Parce que c'est Dieu qui est au-delà. Si nos yeux restent fixés seulement sur ces hommes, nous serons déçus. Mais nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Le Seigneur qui sait quand, comment, pourquoi, avec qui il va vous relever de la cendre où vous êtes assis pour vous mettre sur la table d'honneur. Ceux qui resteront fidèles en Christ seront sauvés et couronnés. Et là, je vais lire Ésaïe chapitre 41, le verset 10. C'est notre dernier verset que je vais lire et après ça, nous allons prier. Ésaïe 41, 10 dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est Dieu qui le dit. Ne crée rien, ne promène pas ton regard inquiet malgré la situation. Tu n'as pas d'enfant. Souviens-toi que le Dieu à qui tu crois, c'est le Dieu de Sarah. C'est le Dieu de Rebecca. C'est le Dieu qui a été capable d'ordonner un enfant d'être conçu dans le ventre de Marie qui n'a pas connu d'homme. C'est Dieu de miracles. Il va le faire. C'est pourquoi ne promène pas tes regards inquiets. Les événements se suivent. Les événements malheureux se suivent dans ta famille. Avant-hier, c'est l'oncle qui est décédé. Hier, c'est le petit frère. Le lendemain, je ne sais pas qui. Mais vous oubliez que celui en qui nous croyons, c'est ce Dieu qui a ressuscité Lazare. C'est ce Dieu qui sait que si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Tous ces événements malheureux qui se passent dans notre vie, nous oublions que ce Dieu-là en qui nous croyons, c'est le Dieu qui a restauré la vie de Job. Job a tout perdu jusqu'à ce que même son épouse l'a demandé de maudire Dieu, afin que Dieu le tue. Mais Job a été fidèle à Dieu. Il a dit, il ne faut pas parler comme des femmes insensées. Si nous recevons le bien de Dieu, tu penses que nous ne pouvons pas aussi recevoir le mal? Ah, ça, c'est une foi extraordinaire. Reconnaître dans la souffrance la présence de Dieu, c'est très important. Et en fin de compte, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oui, le Seigneur est là, il est vivant, il n'est jamais mort, le Seigneur en qui nous croyons. Il n'est jamais mort. C'est pourquoi je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons chanter le dernier couplet de notre cantique numéro 100, « La voix du Seigneur m'appelle ». Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire. Ici-bas, jusqu'au bout, je veux te suivre. Pour toujours.
bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'appeler à une prière. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui et quelles sont les solutions que tu as envisagées pour sortir de ce que tu traverses. Peut-être que tu as fait déjà une solution qui va à l'encontre de votre confiance avec Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Si tu as du mal à marcher avec Christ, demande à Dieu de t'aider à marcher avec toi. Tu as peur des paroles qui ont été proférées contre toi. Souviens-toi que Christ a accepté la souffrance de la honte pour que ta honte soit couverte. Parce que le Seigneur, celui qui couvre notre honte, c'est nous qui devrions être nus à la croix à cause de nos péchés. Mais le Seigneur a accepté la nudité pour nous bénir. C'est pourquoi cet acte-là annule toutes les malédictions que nous avons dans notre vie. Si tu as cru en Christ, sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Je t'invite à prier. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous donnes la force. Nous tirons toute force de chez toi, Seigneur. Ce qui est vrai, nous sommes malmenés par les souffrances de ce monde. Mais toi, Seigneur, tu nous préserves du mal. Mais quelquefois, à cause de la gravité de la souffrance, nous renonçons, nous rétrogradons, Seigneur. Souviens-toi de ce papa, souviens-toi de cette maman, souviens-toi de ce jeune garçon et de cette jeune fille, souviens-toi de cet enfant qui, en cherchant la solution à son problème, n'a pas eu confiance en toi. Il est allé loin de ta volonté. Seigneur, tu sais comment nous gagnons notre pain. Tu sais la manière dont nous nous comportons pour gagner ce que nous avons. Aide-nous à te devenir fidèle et intègre. Aide aussi ce pays, car l'organisation du pays peut aussi amener les gens à aller loin de ta volonté. Mais Seigneur, je sais qu'un jour, nous ne dirons pas devant toi que c'était l'organisation du pays ou du monde. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous donnes aussi des moments propices qui vont nous permettre de continuer à te louer, de t'adorer dans nos vies de chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, et agrée la prière de chacun de nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen.